entendant Micheline, et je pense qu'elle va comprendre pourquoi. On est esclave de quoi ce matin? On est esclave de quoi? La vraie liberté, comme le dit le titre. Je vais prendre le petit truc. La vraie liberté, c'est faire ce qu'on veut. C'est vrai? Ah ben non. J'aimerais qu'on prenne ensemble. Alors j'ai noté qu'une partie du verset. Jean chapitre 8 verset à partir du verset 30. Là j'ai marqué le verset 35, 36 parce que c'est celui sur lequel j'ai posé la prédication. Alors Jean, l'évangile de Jean, chapitre 8, versets 30 à 36, bien sûr. Comme Jésus parlait, ainsi plusieurs crurent en lui. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. » Ils lui répondirent, « Nous sommes la postérité d'Abraham et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. » Comment dis-tu, vous deviendrez libre? Et là, Jésus répond quelque chose qui est net. « en vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison, le Fils y demeure toujours. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. On a vu plein de colères qui ont été épanchées, et on les voit encore pendant le Covid. Parce que les gens ont été privés de liberté. De quelle liberté ils ont été privés? La liberté du monde. En fin de compte, l'être humain repasse ce mot libre dans sa tête et dit « mais je ne peux plus rien faire. Je ne peux plus être indépendant. Je ne peux plus aller où je vais. Je sens même le poids des autorités sur moi. » Mais moi, je voudrais ne plus connaître ça, ne plus connaître de frontières, ne plus connaître ces entraves. Je veux même laisser vagabonder mes pensées. Être libre, vivre libre, c'est ce que veut le monde. Est-ce que nous, on veut ça ce matin? Est-ce qu'on veut les mêmes choses? Je voulais ramener mes menottes, pour les montrer et pour vous montrer comment l'homme vit sans être conscient des entraves qu'il porte dans son quotidien. Et si on regarde la parole, il y a quelqu'un un jour qui a voulu faire ça, la même chose. Il a voulu suivre le monde, il a quitté l'amour de son père, il a quitté l'abondance de son père. Il a tout quitté parce qu'il voulait vivre dans le monde. Vous lirez ça en Luc 15, verset 11 à 32, c'est le fils prodigue. Et ça l'a amené où? Où ça l'a amené? Au milieu des porcs. À manger les mêmes choses que les porcs. Lui qui mangeait des choses excellentes chez son père. Lui qui connaissait l'amour de son père. Il a tout perdu. Poursuivre le monde. En fin de compte, il est encore bien plus esclave qu'avant. Si ce matin tu veux être libre, c'est ton droit, tu peux, facilement. Mais ce matin, on va voir trois limites à la liberté. Il y a trois limites à la liberté. Seul un enfant de Dieu peut dire « Oui, je suis libre ». Et on l'a lu. Mais il y a une question qu'on doit se poser. Est-ce que je peux faire et dire ce que je veux? Est-ce que, en tant que chrétien, je peux faire et dire ce que je veux? Alors vous allez rire. Et je pense que Micheline va rire aussi. C'est exactement le verset qu'elle vous a lu. Galates chapitre 5 verset 13. Frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement ne fais pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair, mais rendez-vous par amour serviteurs les uns les autres. Je ne vous ai pas mis Romains 8:1 qui dit il n'y a plus donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. C'est ça, être libre. Il n'y a plus de condamnation. Mais ça ne nous permet pas de vivre de n'importe quelle façon. Et ça, c'est la première limite. Ne pas faire de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair. Et Paul nous disait, est-ce que je dois pécher pour que la grâce abonde? Mais non. Mais non. Et Paul expliquait, en fin de compte, aux Galates, le danger de glisser justement dans l'esclavage. Il leur rappelle que eux jouissent d'une liberté que les autres n'ont pas et qu'ils ne doivent pas faire de cette liberté une licence, c'est-à-dire des choses licencieuses, des choses nauséabondes, ni une base d'opération pour le péché. Ils devaient utiliser ces choses non pour vivre dans la luxure, vivre dans le monde, mais les utiliser pour l'amour qu'ils auront à donner aux autres. C'est exactement ce que Micheline a dit. Et c'est pour ça que la liberté avait été donnée aux Galates. C'est pour exprimer, quand on dit « vous êtes en Christ », on est revêtu, on l'a vu mardi à l'étude biblique, on est revêtu de Christ. C'est-à-dire que les choses qu'on vit avec l'esprit sont naturelles. Moi, je dis souvent, je ne m'amuse pas à prendre par cœur le fruit de l'esprit. Il faut le vivre, tout simplement. Il faut que la chose devienne naturelle dans notre vie. On n'a pas besoin, si vous préférez, on n'a pas besoin d'être obligé de venir à l'église. On n'a pas besoin de lire sa parole. Non, ce n'est pas une obligation, puisque sinon ça va à l'encontre de ce que je suis en train de vous dire. Vous êtes esclave à ce moment-là. Mais non, l'Éternel change les choses et les choses deviennent naturelles. Vous ne devez plus, mais vous avez soif de lire la parole. Vous ne devez plus aller à l'église, mais vous avez soif de venir à l'église pour la communion fraternelle, pour entendre ce que Dieu a à vous dire. Et Paul demande aux Galates de ne pas être esclaves de la chair, mais d'être serviteurs les uns des autres. Et Lynn l'a dit dans sa prière, on l'a dit mardi. On est tous de la même église. Pas l'église d'Asbrook, l'église de Christ, dont il est le chef. C'est lui le chef de l'église. Le ciment qui nous lie ensemble, c'est l'esprit de Dieu, l'esprit qui est dans cette église. Il n'y a pas un esprit à Asbrook, il n'y a pas un esprit à Dunkerque, il n'y a pas un esprit à Paris, il n'y a pas un esprit à Toulon. C'est le même esprit qui nous lie. Les chrétiens, quand ils se réunissent, Éline, elle vient de Toulouse, elle n'est pas différente de nous. Elle a les mêmes prières que nous, elle a le même Dieu que nous. Merci. Et c'est important de considérer ces choses, que c'est le même esprit qui nous lie. L'esprit qui a été donné à la Pentecôte, est-ce qu'il est différent de l'esprit qui nous est donné aujourd'hui? Absolument pas. Il n'y a qu'un Dieu. Il n'y a qu'un Jésus et il n'y a qu'un esprit. Il n'y a qu'une Trinité. Il n'y en a pas 36. Il y a donc une vraie liberté. Et cette liberté, c'est celle que Dieu nous donne. Et il y a aussi une liberté illusoire, la liberté du monde. Celle qui permet à l'homme de laisser libre cours à ses pensées. Et il y a des gens qui sont fous furieux parce qu'on les empêche de faire ce qu'ils ont dans la tête. Mais c'est l'origine du péché. Parce que quand vous commencez à avoir des pensées, la pensée fait quoi ? Elle produit le péché. Comment sont nos pensées ce matin ? Est-ce que nos pensées sont saines, remplies du Saint-Esprit ? Ou est-ce qu'on a les pensées du monde ? Et si on a les pensées du monde, on est esclave du monde. Et en Ecclésiaste, chapitre 12, verset 1, quelque chose d'incroyable. Salomon, il dit, en fin de compte, aux jeunes, vous faites ce que vous voulez, vous pouvez faire ce que vous voulez. Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse, livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse, marche dans les voies de ton cœur et selon les regards de tes yeux. Mais sache une chose, c'est que pour tout ça, Dieu t'appellera en jugement. Ça nous fait penser à quoi, ça ? C'est qu'il ne faut pas faire n'importe quoi. C'est exactement ce que Salomon était en train d'expliquer aux jeunes. Oh, tu peux faire tout ce que tu veux. Tout ce que tu veux. C'est pas interdit. Tu peux faire, tu peux laisser aller tes pensées. Tu peux faire... Il y a les chrétiens, même ceux parmi nous, même moi, je peux faire ce que je veux. C'est vrai, rien ne m'en empêche. Mais il faut savoir que je devrais rendre compte de tous mes faits et gestes, et de mes paroles également. Quelqu'un dit, le chrétien est libre, mais est-ce qu'il peut faire n'importe quoi ? Et comment savoir qu'on ne peut pas faire n'importe quoi ? C'est en fin de compte au travers de la parole de Dieu, qui nous a laissé des enseignements clairs et précis, qui délimite en fin de compte notre liberté et qui en font des pierres d'achoppement sur lesquelles on bute comme un rappel. Un Corinthiens chapitre 10 versets 23 et 24, tout est permis mais tout n'est pas utile, tout est permis mais tout n'édifie pas. Que personne ne cherche son propre intérêt, mais que chacun cherche celui d'autrui. Elle l'a dit, Micheline. La liberté et ce principe est gouverné par l'amour pour les autres. Ma liberté s'arrête où celle des autres commence. C'est un dicton qu'on emploie dans notre pays, mais qui est très vite oublié. Est-ce que les activités que je fais sont utiles ? Est-ce qu'elles sont édifiantes ? Est-ce que je ne recherche pas mon intérêt au travers de ce que je fais ? Si c'est le cas, elles doivent être évitées. Parce que je suis en train de m'édifier. On voit ici quelque chose de précis. Je suis esclave de mon ego. Je dois faire, dire et décider au travers de plusieurs questions. Est-ce que c'est utile ? Est-ce que ça édifie ? Et la réponse, on va la trouver au travers du degré de ma foi. Plus on croit en Jésus, plus on est en Christ, plus notre ego n'existe plus. Et il n'existe plus d'ailleurs, puisque c'est Christ qui demeure en moi. Il faut être droit de cœur et droit devant le Seigneur. Le Seigneur réclame de nous des chrétiens honnêtes. Il n'attend pas de nous des super prédicateurs. Il n'attend pas de nous des super chrétiens qui peuvent traverser tout et n'importe quoi. La vie nous montre qu'il y a beaucoup de chrétiens qui souffrent. Mais il attend qu'une chose, c'est qu'on ait cette honnêteté de dire, Seigneur, j'en peux plus. Viens à mon secours. Et c'est là où il vient. Et souvent, on est esclave des réactions des autres. Ah, mais si on m'entend prier comme ça, les gens vont penser que je ne suis pas un bon chrétien. Ben non, pour moi, c'est l'inverse. Si tu pries comme ça, ça montre que tu es un bon chrétien. On doit se rappeler que tout n'est pas utile. 1 Timothée chapitre 4, verset 8. Car l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout, ayant la promesse de la vie présente et de celle qui est à venir. Vous voyez, il y a bien mieux que l'exercice corporel. Je ne dis pas qu'il faut rester sur un canapé ou un divan à regarder la télé. Encore de l'esclavage. Il y a une chose qui est utile à tout, c'est la piété. La vraie piété consiste à vivre une communion parfaite avec Dieu, dans tous les compartiments de notre vie. C'est vivre sa foi pour avoir les promesses que Dieu a données, présentes et futures. Et on l'a vu, tout est permis, mais tout n'édifie pas. C'est la deuxième limite. Tout n'est pas une source d'édification. On voit la différence entre ce qui édifie, c'est ce qui nous rapproche de Dieu, et ce qui n'édifie pas nous éloigne de Dieu. Qu'il s'agisse de notre édification ou de celle d'autrui. Le chrétien ne peut pas se permettre de dire, de faire quelque chose qui sera, et vous allez très vite comprendre, une occasion de scandale, de chute pour son frère ou sa sœur. Si je reçois un frère ou une sœur, je sais que son problème, c'est l'alcool. La première chose qu'il va avoir venant de moi, c'est un verre d'eau. Est-ce qu'on peut s'imaginer qu'étant chrétien, je vais commencer à lui verser de l'alcool sans arrêt? Sans arrêt, en sachant qu'il a ce penchant. Non, c'est pas possible. Et c'est ça, ne pas être une occasion de scandale ou de chute pour son frère ou sa sœur. C'est ça, développer l'amour de Dieu. Quelqu'un qui fume, il va pas trouver de tabac chez moi. Quelqu'un qui a cran la télé sera pas ouverte, allumée. Vous voyez, c'est toutes ces choses. Je ne sais pas si je l'ai mis. On a lu en 1 Corinthiens 10, 24 que personne ne cherche son propre intérêt, mais que chacun cherche celui d'autrui. Qu'est-ce que je veux quand je parle à mon frère, quand je parle à ma sœur? Est-ce que je cherche à l'édifier? La liberté, Micheline l'a dit, à sa source dans l'amour. Si on est libre en Christ, on partage cet amour. Il n'y a pas de barrière, il n'y a pas de mauvaise pensée. C'est vraiment un amour fraternel. C'est la raison pour laquelle on vient dans une église, pour avoir cet amour fraternel, l'amour de Dieu qui est au travers de son esprit présent dans l'église et qui agit indépendamment. Le Saint-Esprit agit de manière différente en chacun d'entre nous. Saint Augustin a dit « Aime Dieu et fais ce que tu voudras ». Aime Dieu. Paul le dit autrement en 1 Corinthiens chapitre 10, verset 31. « Faites tout pour la gloire de Dieu ». Tout ce qu'on fait doit être fait pour la gloire de Dieu. Même si c'est des choses qui ne nous conviennent pas, on les fait pour la gloire de Dieu. Et en cela, on est libre. On ne fait rien de façon Oh, j'ai pas envie de le faire. Mais non, parce qu'on a la joie de le faire. On n'est pas esclave de ce qu'on pense, on n'est pas esclave de vouloir faire plaisir. Parce que ça aussi, c'est de l'esclavage. Je veux faire plaisir, alors je vais agir en fonction. Mais non, je le fais par amour. Et la différence, elle est là. Voyez en quoi, même en quoi on peut être esclave. En Romains 14, versets 7 et 8, « En effet, nul de nous ne vit pour lui-même, et nul ne meurt pour lui-même. Car si nous vivons, nous vivons pour le Seigneur, et si nous mourons, nous mourons pour le Seigneur. Soit donc que nous vivions, soit que nous mourions, nous sommes au Seigneur. » Nous ne sommes pas esclaves de quelqu'un d'autre. On est esclave du Seigneur. Et c'est les plus belles entraves qui soient. En fin de compte, ce qui est important par rapport à ce verset, c'est la responsabilité du chrétien devant le Seigneur pour chaque domaine et expérience de sa vie. On a une responsabilité. Quels sont, on l'a entendu ce matin, quels sont nos choix? Et parfois, on est esclave de nos choix parce que les choix sont mauvais. Parce que nos choix ne font pas partie des plans de Dieu. Et on chute. Chaque chrétien, aussi bien dans la mort que dans la vie, est sous l'œil de Dieu. Est-ce qu'on en a conscience? Dieu ne nous quitte jamais. Jamais. C'est pour ça qu'il est dit dans la parole qu'on aura à rendre compte de chacun des actes et chacune de nos paroles. Parce qu'il est là constamment avec nous. Est-ce qu'on l'emmène dans nos péchés? Est-ce qu'on l'emmène dans notre esclavage? Dans nos réactions, colériques parfois, tout en étant chrétiens? Nous sommes au Seigneur et consacrés au Seigneur. C'est la première chose qu'il ne faut pas oublier. Vois, je fais toute chose nouvelle. Si on a vécu cet épisode, on n'est plus comme avant. On a vu qu'au moment du déluge, il y a une scission entre l'ancien monde et le nouveau monde. Tout ce qui avait été avant a été effacé. Lorsqu'on devient une nouvelle nature, tout ce qui était avant a été effacé. C'est pour ça, comme Sophie disait ce matin, on n'a pas à se retourner sur ce qui s'est passé derrière. Parce que derrière n'existe plus. Vois, je fais toute chose nouvelle. On a la liberté dans la justice, la pensée de Dieu, une vie sainte, une vie droite, la liberté dans la paix. Combien de chrétiens sont tourmentés parce qu'un jour ils ont chuté, ils ont fait n'importe quoi et ça tourne dans leur tête et ils sont esclaves de leurs pensées. Alors que le Seigneur veut nous donner un fardeau léger, le sien. Et la fin du verset, on le voit. Ainsi donc, recherchons ce qui contribue à la paix et à l'édification mutuelle. On doit rechercher ce qui donne la paix. On doit rechercher ce qui édifie nos frères et sœurs, et pas nous. Que ce soit dans le manger, dans le boire ou toute autre chose, ces choses doivent être mises de côté si elles sont pour un frère ou une sœur une occasion de chute. Il y a une liberté dans la joie aussi. La sainte joie, celle que donne le Seigneur. Réjouissez-vous dans le Seigneur. Réjouissez-vous, c'est ce que la parole nous dit. Quelles que soient les circonstances, on doit être joyeux. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit, on en parlait ce matin. Est-ce qu'on cherche, on a reçu le Saint-Esprit, mais est-ce qu'on cherche la plénitude de l'Esprit dans notre vie? C'est ça, notre prière. C'est pas chercher le Saint-Esprit, c'est dire, Seigneur, je veux la plénitude de l'Esprit. Il va écraser tout le reste. Il va écraser tout l'esclavage qui est en nous. Cette obligation, il va l'écraser. Il va prendre la place. Jusqu'à ce que les choses de Dieu deviennent naturelles. Il faut que, nous les anciens ici, le « il faut que », quand quelqu'un vient nous voir et nous dit « il faut », c'est barré, déjà. C'est barré. Parce que quand on dit « il faut que », c'est-à-dire qu'on fait le travail à la place de Dieu. Et on s'écarte du plan de Dieu. Et dans nos vies, on fait exactement pareil. Il faudrait que. Et on s'écarte de la pensée de Dieu. Dieu a prévu un chemin pour nous, pour chacun d'entre nous. Il est différent, mais il a prévu un chemin. Et quand on dit « il faudrait que », on s'écarte du chemin. On sort de la pensée de Dieu. Quand Paul a écrit ça, tout ce qu'il faisait était digne de louange. Vous imaginez, Saul de Tarse, il courait, il persécutait les églises, il a été saisi par Dieu pour dire que quand Dieu choisit un chemin pour nous, on est des fois complètement à l'ouest de ce chemin. Et c'était le cas pour Saul de Tarse. Et Paul a écrit des merveilles et il savait... Pour lui, c'était des louanges qu'il faisait à Dieu, parce que les sources de ce qu'il faisait étaient Jésus-Christ. Sa motivation et son but, et le Saint-Esprit en était la puissance. Comme nous, notre vie, le Saint-Esprit doit être la puissance, la motivation de notre vie. Recherchons ce qui contribue à la paix et à l'édification mutuelle. Quelque chose d'important aussi. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 12, et c'est la dernière limite. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. Troisième limite, être esclave de rien. Combien il y a de chrétiens, moi j'en ai fait partie. On condamne les gens qui fument. On condamne les gens qui boivent un petit verre. Et pourtant, on est les premiers à ne pas pouvoir se passer de notre cafetière, de notre télévision, de notre ordinateur, de notre portable. Est-ce que c'est différent des premiers que j'ai cités? C'est exactement pareil. Est-ce qu'il y a des petits péchés? Est-ce qu'il y a des gros péchés? Est-ce qu'il y a des petites choses qui nous écartent de Dieu ou est-ce qu'il y a des grosses choses qui nous écartent de Dieu? Toutes ces choses nous éloignent de Dieu. Il n'y en a aucune de plus petite que d'autres. Et quelque chose d'important, une vérité biblique. Chacun est esclave de ce qui triomphe de lui. J'étais vaincu par quoi ce matin? Vous savez, le malin a cette faculté d'entrer dans nos vies et de mettre des choses anodines qui ne ressemblent à rien. Vous prenez une petite boule de neige, petite, vous l'emmenez à 3600 mètres d'altitude et vous la faites rouler. Comment elle va être à l'arrivée, au bout des 3600 mètres? Elle va être énorme, énorme. Le malin fait exactement la même chose dans nos vies. Il met des choses insignifiantes, toutes petites, qui au départ ne ressemblent à rien. Oh, c'est pas grave ça. Et à la fin, ça vient des torrents de boue qui nous salissent. En fin de compte, le chrétien ne doit être esclave de rien. Parce que si on est affranchi, on est réellement libre. Et c'est ce que le verset 8, Jean 8, 36 nous dit. Celui que le Fils a franchi est réellement libre. Fuis les passions de la jeunesse, recherche la justice, la foi, l'amour, la paix avec ceux qui, d'un cœur pur, invoquent le Seigneur. Qu'est-ce qu'on se sent bien quand on est entre frères et sœurs ? C'est pas vrai ? Nos conversations sont saines. Ce ne sont pas des conversations du monde. Il faut abandonner la vanité des modes, abandonner les choses qui étalent l'orgueil des humains. Vous savez, on a promené, on voyait, mais on a vu des femmes couvertes de tatouages. La question qu'on s'est posée avec Eline et Arlette, à 80 ans, elles auront l'air de quoi ? Quand vous avez 20 ans, vous avez une belle tête, je ne sais pas moi, de loup, une belle tête de ce que vous voulez, mais à 80 ans, tout commence à pendre, elle va être chouette, la tête de loup. Vous imaginez ? L'orgueil du monde aujourd'hui. L'orgueil du monde. Parce que c'est la mode, il faut le faire. Et si on voit que vous n'avez pas de tatouage, encore un attardé. Ben, comme vous êtes, quand vous êtes sur aucun des réseaux sociaux. Encore un attardé. Parce que vous n'êtes pas dans la mode. J'ai fait l'école avec les jeunes, je leur disais, ce qu'il y a de pire dans le monde, c'est l'effet de groupe. L'effet de groupe, c'est terrible. J'ai vu dans ma carrière des fils de médecins, des fils d'avocats se retrouver en garde à vue parce qu'ils ont suivi le groupe. Et les parents sont atterrés quand vous allez chez eux, disent « Ben voilà, vous pouvez venir parce que votre fils est mineur et il a été mis en garde à vue. » Oh ! L'effet de groupe. Mais l'effet du monde est aussi dévastateur. Est-ce que nous, on accepte d'être rétrograde parce qu'on suit Jésus-Christ ? Ben oui, moi j'accepte. Et je dis amen des deux mains. Je dis amen des deux mains. Je dis pas, attention, je suis pas en train de dire que Facebook c'est terrible et ceci, cela. Parce que c'est un puissant moyen d'évangélisation. Le seul problème, c'est que c'est un moyen que le malin utilise pour nous écarter de la parole de Dieu. Et ça, beaucoup de chrétiens ne le voient plus. Et ils sont endigués, ils sont là. Et au lieu de méditer la parole, ben ils sont partis. Et on lit, on écoute, au lieu de méditer la parole de Dieu. Quelque chose d'important. On a été racheté à un grand prix. Ne l'oublions jamais. On a été racheté au sang, au prix de Jésus-Christ quand même. Et on ne doit pas être esclave des hommes. Vous savez, quand on loue le nom de Jésus et qu'on a une vie décousue, on blasphème le nom de Jésus. On blasphème le nom de Jésus-Christ. C'est pour ça qu'il faut régler sa vie devant le Seigneur. Et quand on loue le Seigneur à ce moment-là, on le loue, mais délivré. On n'a plus dans la tête ce qu'on fait de mal. Parce qu'il y a des gens qui sont esclaves d'un péché, esclaves de leur vie. Et vous avez des gens qui se croient justes dans cette vie, en étant persuadés qu'ils vivent avec la présence de l'Esprit de Dieu. Et quand vous leur commencez à leur démontrer qu'ils n'ont pas l'Esprit de Dieu, ça chauffe. Ça chauffe. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Je suis la vérité, le chemin, la vérité et la vie. La connaissance de la vérité progressive, c'est-à-dire on apprend, vous apprenez à connaître un ami si vous êtes toujours avec cet ami. Si vous êtes toujours avec Christ dans vos pensées, dans votre vie quotidienne, une intimité parfaite en Christ, vous apprenez à le connaître et vous grandissez en lui jusqu'au jour où il vient prendre la place. Il va dire, mais attends, Alain, t'es ma maison. C'est Chou, t'es ma maison. Daniel, t'es ma maison. Vous êtes le temple de Dieu. Elle dépend, en fin de compte, notre liberté progressive également. C'est-à-dire que plus on apprend, plus les choses du monde, on n'a plus envie de les faire. Je vais la mettre mal à l'aise, mais mon épouse en est un exemple parfait. Quand je l'ai connue, elle aimait danser, elle aimait faire plein de choses, elle aimait faire la fête entre amis. Et plus elle s'approchait du Seigneur, plus j'étais obligé de lui dire, bon, maintenant, faut arrêter, faut que tu arrêtes de danser, faut que tu arrêtes. Est-ce que vous croyez ça? Ben non. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, parce que les choses de Dieu sont devenues naturelles pour elle. Tout le reste n'existait plus. Plus, il n'y avait plus aucune attraction. Maintenant, je lui dis, si d'aventure je suis malade dans mes pensées, je dis, on va en boîte. Elle va me regarder, mais elle dit, qu'est-ce que tu es en train de me dire? Qu'est-ce que tu es en train de me dire? Non, mais vous imaginez, j'exagère la chose, mais c'est ça qu'on doit être. C'est que les choses qui sont terrestres ne nous intéressent plus. On recherche la présence des frères et sœurs pour parler du Seigneur. Et c'est comme ça que on grandit dans la connaissance de la vérité. Et pourtant, il y a beaucoup de chrétiens qui restent esclaves de beaucoup de choses. Parce qu'ils ne connaissent pas du tout la parole de Dieu. Parce qu'ils n'ont pas cette soif de méditer la parole de Dieu. Plus vous apprenez Christ, plus vous êtes en Christ. Ainsi, celui qui cherche à comprendre les voies de Dieu en méditant la parole et qui possède bien sûr un cœur honnête que le Seigneur a déjà travaillé, c'est-à-dire droit, il va voir cette liberté en lui grandir et les choses du monde pâlir. Et en fin de compte, cette personne ne sera plus esclave de rien. Arlette, vous pouvez lui poser la question à la fin du culte, plus rien ne la touche. Plus rien. Et c'est vrai que j'ai déjà remarqué, il y a des gens qui ont eu des paroles envers elle dures, des gens du monde, hein. Avant, elle aurait réagi. Maintenant, plus rien ne la touche. Qu'est-ce que je vais prendre ce soir? Regardez. Un verset magnifique, Proverbe 4, 18. Les sentiers des justes est comme la lumière resplendissante dont l'éclat va croissant jusqu'au milieu du jour. L'éclat va croissant. On parle ici du chemin de la sagesse qui est dans les premiers rayons de la lumière matinale et qui, en fin de compte, vont croître pendant toute la journée. C'est ce que l'Esprit de Dieu fait dans nos vies. Il commence, et d'un seul coup, si vous lui laissez la place, il va croître, continuer à croître, jusqu'à prendre la totalité de la place. Et vous serez rempli de la lumière de Dieu. Et grâce à cette lumière qui est sur le chemin du croyant, ce croyant peut suivre le chemin de la droiture sans aucune gêne et sans chanceler, puisqu'il est libre de tout. Il n'a plus de contraintes. Il n'est esclave de rien. Oh, il faudrait que ça n'existe plus. Ça, c'est Je l'ai mis là, j'aurais dû le mettre au milieu, mais je l'ai mis. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier en se dirigeant d'après la parole? J'ai voulu vous mettre, vous afficher la conclusion pour que vous puissiez vous en imprégner. La parole nous dit tout ce qui n'est pas conviction est péché. On doit rechercher nos propres convictions dans la parole de Dieu. Ce sont des convictions qui vont venir de Dieu et pas du monde et pas de nos pensées. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier en se dirigeant d'après la parole? L'homme, le jeune homme, va rendre pur son sentier en fin de compte quand il va obéir à la parole de Dieu, quand il va commencer à pratiquer la parole de Dieu. Le chrétien est le seul à pouvoir dire avec vérité « Je suis réellement libre ». Et sa liberté est en fonction de sa connaissance de la vérité, de Jésus-Christ, de sa conscience, de son amour pour Dieu et l'amour du prochain. C'est important, qui est le fruit de l'esprit. Tu es libre, vie libre, ne permet jamais au diable d'en tordre le sens. Parce que si on écoute le diable, on va écouter la liberté du monde. On n'écoutera jamais la liberté de Dieu. Vous savez, on peut se poser la question, est-ce qu'en étant chrétien, je peux faire ceci, je peux faire cela? Est-ce que c'est louable de se poser cette question? Ben non. Ben non. Parce que l'Esprit qui est en nous nous dit déjà, ne t'aventure pas dans ce chemin. L'Esprit de Dieu nous alerte. Si vous êtes conduit, comme a dit Micheline, par l'Esprit de Dieu, vous ne vivrez plus selon la chair, selon les pensées de votre chair. La liberté chrétienne ne consiste pas à faire sa volonté, en fin de compte, qui correspond à vivre selon la chair, mais de pouvoir y renoncer, renoncer à sa volonté pour faire la volonté du Père Céleste. C'est là où c'est important de considérer, est-ce que mon moi existe encore? Est-ce que j'ai été effacé pour laisser la place de Dieu dans ma vie? Pour justement atteindre cette plénitude de l'esprit. Parce que si mon ego existe encore, il y aura encore des questionnements, il y aura encore des pensées qui vont venir et qui vont nous rendre esclaves. Cherche à mieux connaître la vérité et elle t'affranchira encore. Avoir soif de connaître mieux Jésus, de savoir qui il est. C'est important. Et plus on avance dans ce milieu, plus on avance dans la vérité, plus on est libre. Parce qu'on n'a plus envie de rien, tout simplement. Si, de vivre comme lui a vécu. Et qu'il puisse demeurer en nous, comme nous, nous demeurons en lui. On va prier. Merci Seigneur, parce que c'est toi qui nous as fait la grâce de venir vers nous. Seigneur, c'est toi qui nous as remplis de toi, Seigneur. Nous n'étions pas mieux que ceux du dehors, Seigneur, mais tu es venu et nos cœurs ont fléchi devant toi. Seigneur, tu nous as donné cette conviction du péché. Toutes ces choses qui nous rendent esclaves. Alors que toi, tu es mort pour que nous soyons libres. Seigneur, que chacun ici puisse connaître la plénitude de l'Esprit pour être totalement libre. Libre en toi. Seigneur, que tu puisses couper toutes les pensées anciennes. Que tu puisses couper tout héritage qui vient de nos familles et qui nous rend esclaves et dont le malin se sert pour dire « Regarde d'où tu viens, Seigneur, coupe. » Que tu puisses assainir par la puissance de ton esprit qui est une flamme et qui brûle. Seigneur, que la vérité apparaisse dans nos familles. Que la vérité puisse être libre d'agir dans nos familles. Seigneur, que chacun ici puisse connaître une délivrance totale de l'esclavage des choses anciennes. Pour connaître quelque chose de nouveau en toi et par toi. Seigneur, que ton esprit trouve libre cours dans chacun des cœurs ici présents et agisse avec puissance. Seigneur, ta présence en nous n'est pas magique, mais elle est le fruit d'un abandon de nous-mêmes à toi, Seigneur. Seigneur, tu prends tous nos fardeaux. Et tu nous donnes ton fardeau léger, qui nous permet de courir sur le chemin que tu as prévu pour nous. Et Seigneur, tu libères nos cœurs ce matin que tu puisses libérer des cœurs par la puissance de ton esprit. Que chacun ici puisse repartir libre de toute entrave et connaître un nouveau soleil dans sa vie. Ta lumière, Seigneur, qui éclaire toutes choses et qui les rend pures, Seigneur, par ta présence. Je glorifie ton nom, Père. Je glorifie le nom de Jésus-Christ au milieu de nous. Et je fais taire les autorités qui sont en train encore de faire douter en prononçant le nom de Jésus-Christ qui donne la victoire. Sur toute entrave, libère ce matin, en ton nom, Seigneur, ceux qui sont esclaves d'eux-mêmes, ceux qui sont esclaves du monde. Libère-les en ton nom, Seigneur Jésus, pour ta gloire, Père. Amen.